prochaine. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Burkina Faso, la période de transition est fixée à 3 ans, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba sera investi demain. En Guinée, les anciens premiers ministres Sélou Dalem Diallo et Sidiya Touré, objets d'enquête pour corruption, clament toujours leur innocence. Dans le sud-ouest du Soudan du Sud, 440 civils ont été tués entre juin et septembre. La Russie intensifie ses bombardements sur l'Ukraine. Le président Joe Biden doit faire ce soir son premier discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès américain. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, la période de transition avant un retour à l'ordre constitutionnel a été fixée à 3 ans. Les assises nationales se sont terminées tard la nuit dernière. Une charte de la transition a été signée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui doit être investi demain président de la transition. Le point avec Nanit Talani.
La durée de la transition est fixée à 36 mois à compter de la date de l'investiture du président de la transition. Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a déjà prêté serment le 16 février, sera investi demain mercredi. La charte stipule que le président de la transition et les membres de son gouvernement ne sont pas éligibles aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Les organes de la transition comprennent un conseil d'orientation et de suivi qui fixe les grandes orientations de la politique de l'État, une assemblée législative de 71 membres au lieu de 51 et un gouvernement de 25 membres au lieu de 20. Les principales missions de la transition seront de lutter contre le terrorisme, restaurer l'intégrité de l'État sur le territoire national et apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire. La transition devra aussi renforcer la lutte contre la corruption. Des discussions sur la charte auront lieu avec la CEDEAO qui a suspendu le Burkina après le coup d'État. Elle avait demandé aux nouvelles autorités burkinabées de présenter un calendrier raisonnable pour un retour à l'ordre constitutionnel.
Au Niger, 2 ressortissants chinois enlevés en juin 2021 dans la région de Tillabéri dans l'ouest du pays ont été libérés après 9 mois de captivité. L'ambassadeur de Chine à Niamey a fait ses déclarations à l'issue d'un entretien avec le président nigérian Mohamed Bazoum. Le président nigérian Muhammadu Buhari se rendra à Londres pour un congé médical de routine de 2 semaines maximum après une visite au Kenya, a annoncé son porte-parole Femi Adesina. Âgé de 79 ans, Monsieur Buhari s'est rendu plusieurs fois à Londres pour des raisons médicales depuis sa première élection à la présidence en 2015, mais la nature de sa maladie n'a jamais été révélée. En République démocratique du Congo, des militants et la famille de François Beya, conseiller spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi en matière de sécurité, ont dénoncé le durcissement de ses conditions de détention 25 jours après son arrestation. Ils ont appelé à un procès équitable ou à sa libération immédiate. Au Soudan du Sud, selon un rapport de l'ONU, au moins 440 civils ont été tués entre juin et septembre 2021 dans des combats entre partisans de Riek Machar et l'armée loyale au président Salva Kiir. Plus de détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
L'enquête de l'ONU précise qu'au moins 56 civils, dont 4 femmes, sont toujours portés disparus. Le rapport mentionne les pillages et destructions de biens, l'enrôlement d'enfants, les discours de haine et l'incitation à la violence, entre autres violations des droits humains. Le rapport qui dénonce 440 civils tués désigne précisément le mouvement du vice-président Riek Machar et les forces de défense sud-soudanaises loyales au président Salva Kiir, ainsi que leurs milices respectives comme responsables de ces violations et abus durant ces affrontements à caractère politico-ethnique. Outre les centaines de personnes tuées, 74 autres ont été enlevées dans la seule région de Tamboura, dans le sud-ouest du pays, affirme le rapport onusien. Entre 2013 et 2018, le plus jeune pays du continent a sombré dans une sanglante guerre civile entre les frères ennemis Riek Machar et Salva Kiir, qui a fait plus de 400 000 morts et plusieurs millions de déplacés.
En Libye, le Parlement a accordé sa confiance à un nouveau gouvernement dirigé par l'ex-ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, défiant le cabinet basé à Tripoli qui refuse de céder le pouvoir avant la tenue d'élections. Peu avant le début de la séance, le Parlement avait dénoncé dans un communiqué les menaces de mort dont ont fait l'objet de nombreux députés ainsi que leurs familles pour influencer leur vote ou les dissuader de participer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec son homologue américain Joe Biden ce soir. Monsieur Zelensky a appelé à arrêter l'agresseur russe au plus vite. Lors de leur entretien, les deux présidents ont notamment parlé des sanctions occidentales contre la Russie et de l'aide fournie par les États-Unis et d'autres pays à l'Ukraine en matière de défense. L'armée russe demande aux civils vivant à proximité des infrastructures militaires ukrainiennes à Kiev de quitter ces zones. Elle annonce qu'elle s'apprête à viser ces installations alors que le conflit en est à son sixième jour. Abdourahman Dia.
Afin d'arrêter les attaques informatiques contre la Russie, des frappes avec des armes de haute précision vont être menées contre des infrastructures technologiques et du centre principal de l'unité des opérations psychologiques à Kiev, a dit le porte-parole du ministère russe de la Défense. Ces déclarations interviennent au moment où les forces russes redoublent d'efforts pour s'emparer de Kiev, la capitale. Un convoi de blindés russes long de plusieurs dizaines de kilomètres s'approche de la capitale ukrainienne par le nord-ouest selon des images satellites publiées la nuit dernière. Les autorités ukrainiennes ont accusé l'armée russe d'avoir mené des frappes sur des quartiers résidentiels de plusieurs villes, dont Kharkiv dans l'est, théâtre de combats acharnés. Le premier ministre britannique Boris Johnson dénonce les bombardements écœurants à Kharkiv, la seconde ville d'Ukraine. Pendant ce temps, des milliers d'Ukrainiens et d'étrangers fuyant les violences continuent d'arriver dans les pays limitrophes. Selon le HCR, ils sont déjà plus de 660 000 réfugiés. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a prévenu que la situation des droits humains va s'aggraver si Poutine gagne la guerre. Il a suggéré mardi d'exclure Moscou du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Concernant l'avancée de l'armée russe vers Kiev, un haut responsable du Pentagone a déclaré qu'elle est pour l'instant au point mort, entravée par la résistance ukrainienne ainsi que par des problèmes d'approvisionnement en carburant et nourriture. L'ONU et ses organisations partenaires ont lancé un appel d'urgence pour lever 1,7 milliard de dollars afin d'apporter l'aide humanitaire dont l'Ukraine va avoir besoin. Plus de 677 000 réfugiés ont déjà fui le pays. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'adresse ce soir aux deux chambres réunies du Congrès pour son premier discours sur l'état de l'Union. Ce rituel majeur de la vie politique américaine voit le président livrer chaque année un discours qui se concentre d'habitude sur des problèmes intérieurs. Mais l'invasion de l'Ukraine va s'imposer cette fois. Jean-Roger Bion.
Les gens peuvent s'attendre à ce que le président évoque l'importance des États-Unis pour mener la défense des valeurs et des normes internationales, a dit lundi sa porte-parole Jen Psaki. Alors que le monde est pris dans la tempête de la guerre en Ukraine, Joe Biden va tenter de livrer sa vision du monde face à la détermination de Moscou à soumettre Kiev. Au plan intérieur, Joe Biden en chute libre dans les sondages, ne manquera pas de mentionner le retour à la normale pour des Américains fatigués de la pandémie et démoralisés par une forte poussée d'inflation. Le président américain touchera sans doute au dossier lié à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans de son prédécesseur Donald Trump. Le 46e président des États-Unis va aussi sans doute mettre en avant les succès reconnus à son administration, dont le plan massif d'investissement dans les infrastructures, la nomination pour la première fois d'une femme noire, Ketanji Brown Jackson, à la Cour suprême. Et la Maison-Blanche a fait savoir qu'il fera également la part belle dans son discours à des projets économiques et sociaux, le tout dans la perspective des élections de mi-mandat en novembre prochain.
En Israël, la Cour suprême a suspendu les évictions de 4 familles palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupée, devenu le symbole de la lutte contre la colonisation israélienne. Et toujours en Israël, 3 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée lors de 2 incidents distincts, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
La Tunisie a déposé en justice une requête pour la liquidation et la dissolution de la Banque franco-tunisienne, l'une des plus anciennes institutions financières du pays, après l'échec de sa remise à flot. Le gouverneur de la Banque centrale a fait savoir que la banque était en cessation de paiement. Il s'agit de la première banque tunisienne à déclarer faillite en raison des problèmes financiers qui l'assaillent depuis des années. L'Afrique est propice aux investissements, affirme une délégation du Congrès américain en visite à la Banque africaine de développement à Abidjan. Grégory Mix, le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, accompagné des élus Ami Bera de Californie, Ilan Omar du Minnesota, Joyce Beatty de l'Ohio, J.K. Butterfield de Caroline du Nord, Brenda Lawrence du Michigan et Troy Carter de Louisiane ont visité la Sierra Leone et le Libéria avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Ces élus ont déclaré avoir été inspirés par les immenses opportunités que le continent africain offre aux investisseurs américains. Les villes font face à une myriade de risques liés au changement climatique, selon le rapport des experts climat de l'ONU paru lundi. D'ici 2050, la population urbaine devrait croître de 2,5 milliards, en particulier dans des zones particulièrement exposées au changement climatique, sur les littoraux, en Afrique, en Asie et dans de petites îles. Si la température moyenne mondiale augmente de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, les dégâts causés aux infrastructures pourraient coûter 4 200 milliards de dollars d'ici 2100.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'ex-défenseur vedette des Lions indomptables Rigobert Song est le nouveau sélectionneur de l'équipe de football du Cameroun. Il succède ainsi au Portugais Tony Conceição. Les détails avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Gilentap.
Rigobert Song a à ses côtés 3 anciens coéquipiers de la sélection nationale. Raymond Kala, désigné team manager, Augustin Simon, assistant coach, et Souleymanou Amidou, entraîneur des gardiens. Le nouvel encadrement est également composé de 3 techniciens français, parmi lesquels Sébastien Migné, nommé entraîneur-sélectionneur adjoint. Des changements opérés sur haute instruction du président de la République, selon un communiqué rendu public hier soir par le ministre des Sports. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, avait fait du départ de l'ancien sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceição, l'une de ses priorités au terme d'une réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Mais le ministre des Sports a semblé s'y opposer en précisant que le président de la République avait instruit le maintien du Portugais. Rigobert Song, âgé de 45 ans, est un ancien capitaine des Lions indomptables avec 137 sélections. Le nouvel accadement technique sera à pied d'œuvre les 25 et 28 mars prochains face à l'Algérie, un match comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Yaoundé, Emmanuel Gilentap. VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Les conséquences sportives de l'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuivent. Les Russes et les Bélarusses sont bannis de toutes les compétitions d'athlétisme dans un avenir prévisible et avec effet immédiat, annonce World Athletics. Aucun Russe ne pourra donc prendre part aux mondiaux en salle de Belgrade du 18 au 20 mars, ni au championnat du monde en plein air ici aux États-Unis en juillet prochain. Précise la Fédération internationale d'athlétisme, les athlètes russes concourant sous bannière neutre sont eux aussi exclus. En football, l'entraîneur allemand du Lokomotiv Moscou, Markus Gisdol, a remis sa démission au club moscovite pour protester contre l'invasion russe de l'Ukraine. Hier, la FIFA a suspendu des sélections nationales et des clubs russes jusqu'à nouvel ordre. Les Russes, hôtes du dernier mondial en 2018, sont donc disqualifiés des barrages de la prochaine édition, qu'il devait disputer fin mars avec un billet en jeu pour le tournoi au Qatar en fin d'année. Désormais, leur sélection féminine ne pourra pas jouer l'Euro en Angleterre en juillet. Le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en Coupe d'Europe cette saison, est lui aussi exclu. Il y a une semaine, la ville russe de Saint-Pétersbourg, qui devait abriter la finale de la Ligue des Champions, a été remplacée par Paris.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été désigné pour diriger la transition qui devra durer 3 ans. Un gouvernement de 25 membres devra être mis en place et une assemblée de 71 membres. Ce sont là les grandes lignes de la charte signée tard la nuit dernière à l'issue des assises nationales. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été désigné pour diriger une transition de 36 mois. La charte de la transition a été signée très tard la nuit dernière par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, à l'issue des assises nationales. La charte prévoit un gouvernement de 25 membres au maximum avec un premier ministre civil au lieu de 20 proposés par la commission technique. L'Assemblée législative devra compter 71 membres au lieu de 51 comme proposé par le projet de texte. Des participants aux assises s'expriment.
Les 36 mois, beaucoup étaient juste là pour qu'on puisse aller aux élections rapidement. Nous venons de sortir d'une histoire pas si longtemps avec des politiciens et ce sont ces mêmes acteurs qui ont fait basculer le Burkina Faso. Mais pourquoi se précipiter pour leur redonner le pouvoir? Ah non, il faut un toilettage. Il faut réellement que les politiciens se remettent en cause.
Nous venons de finir les travaux et ça a été effectivement amendé à l'unanimité et bien sûr signé par le chef de l'État lui-même. Ça a été un exercice réussi dans son ensemble, puisque arriver à parler d'une même voix avec les représentants des forces vives de la nation, c'est déjà quelque chose de bien. Et ça augure effectivement d'un lendemain meilleur dans cette lutte contre le terrorisme et les grands défis que nous aurons donc à relever dans ces mois à venir.
Dans les rues à Ouagadougou, les populations veulent simplement le retour de la paix.
Son arrivée, déjà, nous, on a applaudi son arrivée. Et on continue de voir, mais maintenant, ce qui nous inquiète, comme ça prend jusqu'à un mois et on ne voit rien d'abord. Les 3 ans, moi, je trouve que non, nous, on n'a pas besoin de 3 ans pour lui. Nous, on a besoin d'un travail bien fait pour lui. Qu'est-ce que ça dure 10 ans? Que les autres Burkinabés qui ne sont pas à Ouaga, qui n'arrivent pas à boire une bière comme nous, arrivent à boire la bière comme nous aussi. Arrivent à rire et avoir de l'eau à boire, manger. C'est ce dont nous avons besoin.
D'abord, nous, citoyens, notre souhait d'abord, c'est qu'il revienne la paix. Le président Damiba en a fait cas donc dans son discours, la restauration donc de l'intégrité et surtout la paix. Et je pense que c'est le défi qui est attendu actuellement. Et personnellement, nous en tant que citoyens, nous notre souhait c'est qu'il y ait la paix.
Selon la charte adoptée cette nuit, les principaux responsables de la transition ne pourront pas se présenter aux prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. Les travaux des assises nationales ont été présidés par Tertius Zongo, l'ancien premier ministre de Blaise Compaoré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba sera investi président de la transition demain mercredi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. En Guinée, des heurts ont opposé hier à Conakry, forces de sécurité et partisans de l'ex-premier ministre Sélou d'Alène Diallo. Les militaires au pouvoir ont ordonné à plusieurs figures politiques, dont M. Diallo, de quitter leur maison qu'ils auraient acquise frauduleusement. Yacouba Ouédraogo, adjoint à Conakry, maître Amadou Diallo, avocat de Sélou d'Alène Diallo.
Les services compétents du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ont évalué la valeur vénale du terrain et du bâti. Il est allé à la banque prendre un crédit de 406 millions de francs guinéens à l'époque. C'est ce qui a servi au paiement. Et c'est les services administratifs eux-mêmes qui ont établi le titre foncier. Ce domaine-là, ce n'est pas un domaine public. C'est un domaine privé de l'État.
Qu'est-ce que cela signifie?
C'est-à-dire qu'en Guinée, il n'y a pas une loi qui interdit aux fonctionnaires d'acheter un bien relevant du domaine privé. Sélou n'est pas un cas isolé. Beaucoup de fonctionnaires guinéens et même de non-fonctionnaires ont bénéficié de la vente des biens relevant du domaine privé de l'État.
Quel titre Sélou d'Alain Diallo occupait à l'époque de l'achat? en 2005.
Je pense qu'il était Premier ministre.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas eu conflit d'intérêts?
Non. Dans la législation guinéenne, c'est par exemple des fonctionnaires du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ou la direction du PASSI, ces gens-là s'attribuent des terrains. Là, il peut y avoir un conflit d'intérêts.
L'affaire a été portée devant les tribunaux et un tribunal, justement, de la banlieue de Conakry s'est déclaré incompétent. Quelle est la suite judiciaire réservée à l'affaire?
On a fait appel par rapport à ça. Dans ce cas-là, on a assigné un référé pour qu'il y ait des mesures d'urgence pour empêcher l'expulsion de M. Diallo le 28 février dernier. Malheureusement, Mme la juge qui avait autorisé à signer s'est déclarée incompétente, je ne sais pas pour quelle raison. Mais elle est, au terme de la loi guinéenne, elle est parfaitement compétente.
Où résoudre ces luttes d'Alain Diallo à présent?
Heureusement qu'il avait une autre résidence secondaire dans un autre quartier de Conakry. Donc il a déménagé chez lui. Alors, toujours dans la même commune de Ratoma.
Une autre enquête vise parallèlement M. Diallo pour corruption et enrichissement illicite lors de la vente en 2002 de deux avions et autres biens de la compagnie aérienne nationale Air Guinée. Il était à l'époque ministre des Transports. Qu'en est-il?
Là aussi, c'est une autre accusation fallacieuse parce que tout simplement, on veut le disqualifier pour la compétition électorale. En Guinée, après, comme je vous ai dit, après 1984, on est passé d'un régime socialo-communiste à un régime libéral. Et donc, il fallait avoir une politique de désengagement de l'État. Donc, privatiser les entreprises publiques dont la plupart étaient moribondes, presque en faillite. Et c'est la Banque mondiale qui a soutenu l'élaboration d'une loi qui fixe les règles de privatisation. Et cette loi, elle est encore en vigueur. Et c'est cette loi qui a été appliquée avec l'appui de la Banque mondiale qui a mis en place ce qu'on appelle une unité de privatisation qui travaille sous la direction du ministre de l'Économie et des Finances, qui est seul responsable des opérations de privatisation. Mais c'est le Diallo, Alain Diallo n'a rien vendu, n'a rien acheté et n'a rien proposé.
Maître Amadou Diallo, avocat de Sélou d'Alain Diallo à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En Ukraine, les bombardements ont repris à Kiev, la capitale. Ukrainiens et étrangers, dont plusieurs Africains, tentent de fuir les combats. Mais joindre les pays limitrophes est assez difficile, comme un parcours du combattant. Arzoua Compaoré a recueilli le témoignage de Moujebat Ishola, une ressortissante ivoirienne qui, après deux jours de tentative, a finalement réussi à atteindre la Pologne.
Moi, je me suis renseignée comment faire pour quitter le pays. Vu que par le train, déjà le train, ils sont beaucoup racistes. Ils ne veulent pas laisser les Noirs entrer dans le train. D'abord, ils favorisent les Blancs. Et les Noirs sont obligés de rester arrêtés dans le train pendant plus de 14 heures de route. Parce que le train, il est plus rapide que le car. À la frontière, ils n'arrivent pas encore à traverser encore le pays. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à traverser entre Lviv pour rentrer à Pologne. On favorise encore les Blancs. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc, c'était mieux d'acheter un ticket pour pouvoir traverser, en fait. Et le cas que moi, j'ai pris, on n'est même pas à tout ça. On est passé, je crois bien qu'on est passé, à la frontière, mais la frontière, il n'y avait pas tellement de personnes. Je ne sais pas comment ça se passait, mais là-bas, en tout cas, il n'y avait pas tellement de personnes. Il y a des vidéos, même. Il a pris le cas, en fait, pour rentrer ici. Moi, le problème, c'était de quitter Kiev. Et quand tu rentres ici, le président d'ici a pris la décision de donner un visa Schengen à tous les ressortissants de l'Ukraine, en fait, pour qu'ils puissent voyager pour aller vers leurs proches. Parce qu'il y a d'autres qui ont des proches, peut-être en Europe, mais à cause du visa, ils ne peuvent pas, en fait, aller voir leurs proches. Vous voyez un peu le truc. On nous a remis un visa Schengen de 53 jours.
Et durant votre traversée, qu'est-ce que vous avez pu observer au cours du trajet?
C'est seulement que des voitures, je voyais des voitures, des cars qui venaient là, jusque quand vous arriviez. Parce que je sais qu'on dit que de l'autre côté, vous écrivez votre nom, et puis après, vous passez. En fait, c'était compliqué là-bas. Moi, quand on m'a expliqué, j'ai dit, mais attends, est-ce que je pourrais? On dit, vous marchez, parce qu'il y a tellement de personnes, il y a tellement d'embouteillages que vous marchez pendant des kilomètres pour arriver à la frontière. Et quand vous arrivez à la frontière, on vous demande d'écrire. Il y a des personnes, c'est-à-dire, on sélectionne. Vous écrivez votre nom et après, on vient appeler. C'est-à-dire que tu peux écrire aujourd'hui et on va te prendre peut-être que dans deux jours, tu vas passer. Mais par chance, où moi je suis passée, c'est-à-dire que vous descendez de votre car à la frontière de l'Ukraine, ils ont mis le cachet pour dire qu'on sort de l'Ukraine. Et quand on a voulu rentrer à Pologne, nous sommes descendus, c'est là maintenant qu'ils ont mis, maintenant ils ont vérifié nos passeports, tout et tout. Si on fait partie vraiment des réfugiés de l'Ukraine. Et puis maintenant, là, maintenant, on met le tampon de visa Schengen. On nous dit qu'on peut rentrer dans le pays. Et puis en plus de là, maintenant, on peut voyager pour partir là où on veut. Je viens voyager seulement qu'avec les Blancs. J'étais la seule noire.
Et durant toute cette traversée, vous n'avez pas eu peur?
On peut bien bombarder le cadre tranquille. Du coup, c'est risqué. Mais on s'est dit en fait que mieux vaut risquer que de rester là à ne rien faire.
C'était Mujibat Ishola, une ressortissante ivoirienne habitant en Ukraine et qui vient de passer la frontière polonaise. En pleine crise ukrainienne, le président américain Joe Biden présente ce soir le cadre général de sa politique lors de son premier discours sur l'état de l'Union devant le Congrès réuni. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint ici à Washington l'analyste politique Marilyn Sefocle de Howard University.
Ce sera un véritable test pour le président Biden parce que, évidemment, quand il préparait le discours à la nation, on se prépare des semaines et des semaines à l'avance. Et je suis sûr qu'au moment où on a commencé à préparer ce discours à la nation, il n'avait pas du tout en tête une guerre possible entre la Russie et l'Ukraine. Donc évidemment, ce sera un grand challenge pour lui.
C'est un président impopulaire selon les sondages. Est-ce que c'est une opportunité pour lui pour renverser la tendance et comment peut-il y arriver?
Alors ce sera justement une opportunité pour lui de renverser la tendance et justement ce sera l'occasion pour les Américains d'apprécier le fait que justement sa grande expérience, puisqu'il a passé des décennies au Sénat, donc il a une grande expérience en la matière, surtout en matière de diplomatie et en matière de ce qu'on appelle « statesmanship » en anglais. C'est pour lui, si vous voulez, une bonne occasion, non seulement de renverser la tendance, mais de montrer de quoi il est fait, en fait.
Les États-Unis connaissent une forte inflation. A-t-il quelque chose à vendre ce soir aux Américains?
Alors, évidemment, il y a inflation, mais l'inflation est due à la conjoncture actuelle et due à la pandémie en grande partie. Ce sera pour lui l'occasion d'expliquer les sources de cette inflation au peuple américain.
En termes de bilan, qu'est-ce qu'il peut vanter?
Oui, il y a beaucoup de points positifs qu'il peut présenter, comme par exemple le fait qu'il est arrivé à endiguer en grande partie la pandémie, qu'il est arrivé aussi à apporter un certain soutien financier à ceux qui étaient les plus défavorisés. Donc tout ça, ce sont des points importants. Et puis aussi à faire voter le budget pour l'infrastructure. Ce sont là trois points vraiment très importants.
Il y a aussi la Cour suprême.
Oui, et la Cour suprême, évidemment. Ça, c'est très important également.
Et pour vous, une femme noire nommée pour être juge à la Cour suprême des États-Unis, qu'est-ce que vous ressentez? C'est l'Amérique qui change?
Jackson, c'est une personne extrêmement compétente. On ne peut pas dire que l'Amérique change avec seulement une nomination, mais on peut dire que c'est un pas dans la bonne direction, en tout cas, puisque, comme vous le savez, très souvent, les femmes noires américaines ont souvent été à l'autre bout, ont été souvent victimes quand leurs frères, leurs fils, leur mari se sont trouvés dans certains cas injustement emprisonnés ou ont été victimes de l'injustice. Donc avoir une femme noire à la Cour suprême, une femme de la compétence de Mme Jackson, ça, c'est vraiment un point extrêmement positif pour l'administration Biden.
C'était l'analyste politique Marilyn Sefocle de Howard University, jointe par Eric Manirakiza.
C'est parti pour la deuxième saison de la Basketball Africa League, l'événement basketball de l'année. La Voix de l'Amérique, en partenariat avec la balle, vous fait découvrir l'événement phare du basket africain. 12 clubs en compétition pour succéder aux Amalek, vainqueurs de la première édition. 38 matchs à disputer dans 3 pays, le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda. Retrouvez les matchs en direct, les avant et après matchs, ainsi que des résumés quotidiens sur les ondes de la VOA et sur nos stations partenaires. La Basketball Africa League sur la Voix de l'Amérique, que le meilleur gagne.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.